Bonjour. Je suis aussi chargé de mission image et c'est comme ça qu'est né ce projet. C'est que l'ancien directeur de l'ENS avait lancé trois thématiques, le corpus, la ville et l'image. Et il fallait que ce soit transversal au niveau de la formation et de la recherche. Donc j'ai été frappé à la porte de l'École nationale supérieure de la photographie à Arles. Et donc son nouveau ancien, parce qu'il est parti maintenant, Patrick Talbot, avait dit oui, alors que Alain Leloup, non. Voilà. Et mais le projet se poursuit avec Rémi Fenzi, le nouveau directeur. Et donc l'idée, c'était de mettre en place un parcours de formation, écriture et photographie, entre nos élèves, donc les normaliens, mais aussi les auditeurs libres, puisqu'on oublie souvent qu'avec la réforme LMD, il y a de plus en plus d'élèves non normaliens. Et donc dans ce projet, par exemple, ils sont plus à 75% de non normaliens. Qui travaille donc avec Lyon 2 ou l'Université de Saint-Étienne. Ce projet donc, est des photographes du côté de l'École nationale supérieure de la photographie. Nous, au sein de l'école, hier, il y avait Eric Dair, était parti, alors il a pris la succession du Centre d'études poétiques, est devenu avec sa direction le Centre d'études et de recherche comparée sur la création. Mais on a été trois forces au sein de l'école. Donc le centre d'études poétiques était dirigé par un poète et un enseignant-chercheur, Jean-Marie Glaise. Je vous le dis parce que ça va imprégner ce projet sur les quatre éditions. Ça s'appelait pas encore Histoire des Arts à l'époque parce que ce projet a été initié en 2005. C'était les enseignements artistiques. Donc enseignement artistique, voilà, avec Marie Gautron. Puis après avec d'autres enseignants, et c'est vrai que maintenant c'est devenu une enseignante en histoire des arts, Marie Frétigny, et puis le chargé de mission des images. Et du côté d'Arles, c'est avec deux enseignants qui portent le projet à partir des deuxièmes années. Donc vous voyez, c'est aussi un travail, et ça c'est une chance, un travail sur du moyen terme. C'est un projet sur 2 ans qu'on fait. Donc on part avec les deuxièmes années et donc leur corpus photographique n'est pas encore finalisé. Et il va se créer avec cette relation, cette altérité, cette hybridation, cette expérimentation entre les deux types d'élèves qui vont se rencontrer. Alors la différence, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que c'est vraiment une sorte de mariage impossible au départ parce qu'une école d'art et notre école... Au départ, on n'a rien à voir ensemble parce que c'est des promotions de 30 à 40 élèves. Ils ont un parcours bien spécifique. Et les nôtres, eux, ce n'est pas du tout une promotion. Ils viennent d'horizons différents. Ils peuvent être philosophes, lettres modernes, voire la dernière édition, c'est sur laquelle je vais m'appuyer le plus pour la ramener à la littérature numérique, électronique, où il y a 4 exemples qui flirtent avec le propos de ce séminaire. C'est par exemple, il y a une chimiste aussi. Donc une chimiste, et c'était très intéressant parce que sa relation avec le monde de la photographie, parce que pour moi c'est toujours un univers qui balbutie entre la science et l'art, la photographie, même si on est passé de l'argentique au numérique. Donc voilà sur le projet, parce que c'est vrai que j'ai pas prévu de PowerPoint. Par contre, j'ai l'atelier qui est mis en ligne, et donc je vais m'appuyer sur l'atelier qui est mis en ligne sur le site de l'école. Et c'est vrai que c'est là où on voit que l'électronique est formidable, mais ce matin, j'ai une peur monstre, parce que on m'a dit qu'aujourd'hui, il y avait une énorme opération de maintenance, et donc il n'y aurait pas d'Internet aujourd'hui.
C'est pas une farce, c'était vrai. Donc,
il a fallu un peu. Voilà. Parce qu'on a un séminaire quand même un peu sur la question, donc c'était mal approprié cette maintenance. Mais tout est remis en route. Je rappelle le projet, voilà. Donc, et les étudiants investissent 2 territoires. Une publication, donc un vrai livre, voilà, où ils vont avoir 10 pages à eux, à mettre en maquette. En page, et une exposition. Donc, la première édition, c'était Duel, Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ça m'a fait rappeler qu'une des étudiantes, un des binômes, des couples, sont partis des exercices de Queneau. Et je voulais amener son travail d'Isabelle Giacchini, je lui ai acheté après l'exposition. Et elle a travaillé à l'époque, c'est juste un aparté, mais elle a travaillé avec un étudiant de l'école, Marc Normand, Olivier Normand, parce que c'est vrai que ma mémoire est... Ouais, c'était un projet de 2005. Marc Normand, Olivier Normand, qui était aussi lettre moderne, mais passionné de danse. Maintenant, il est danseur dans une compagnie. Mais à l'époque, c'était marrant parce que leur projet, donc elle est partie, elle a exposé ce travail, je peux le faire circuler. Elle a reçu l'ouvrage de la collection Blanche, mais à sa manière. Et elle l'avait installé sur un socle, parce que l'exposition était montrée au Fonds régional d'art contemporain à Marseille, à la Vieille Charité. Et Olivier Normand avait juste mis une punaise et puis son numéro de portable et en disant « Si vous souhaitez des informations, je reste à votre disposition. » Et donc, plein de visiteurs l'ont fait. Donc, quand il n'était pas en cours, il répondait et il expliquait le projet. Donc, c'était assez intéressant. Et après, il y a le projet, ça c'est le second temps sur l'exposition, mais donc le premier projet, c'était le livre. Donc, les livres sont... vous pouvez les acquérir en face, à la librairie. Donc, Duel, voilà, c'était le premier en 2006, parce que l'exposition était en 2007. Voilà. Donc, c'était juste par rapport à Queneau, qui reste vraiment un fondamental, même dans une école d'art, voilà. Continuer à faire ses exercices, et même une photographe, qui ne fait pas de photographie, mais qui travaille plutôt sur l'empreinte, on va dire. Notamment les empreintes de fougères, les empreintes de... Voilà, sur la trace. Donc, après, donc, on a eu... Juste pour revenir au titre, parce que certaines personnes hier m'ont demandé ce que signifiait ce titre, manier l'exercice de part et d'autre pour ne faire qu'un. C'est que ce projet est aussi une manière de montrer que les sciences humaines sont importantes dans l'art et vice-versa. Et que on essaie de l'inscrire en tant que parcours de formation, mais aussi acte de recherche. Et donc, ce titre, en vérité, vient d'un article que j'ai écrit dans « À quoi servent les sciences humaines ?», le numéro 3, d'une revue de sciences humaines, Tracé. Et donc, c'est un collectif. Et donc, ils ont fait... Donc, c'est sur les économistes et les sciences humaines, la justice et les sciences humaines. Et ils ont fait une journée « Art contemporain et sciences humaines ». Et ils m'ont invité à parler de ce projet. Donc, est venue l'idée de ce titre où des photographes manient un exercice, des écrivains, pas des écrivains. Je préfère cette nuance parce que certains deviendront écrivains, mais tous au départ manipulent l'écriture, donc des écrivains. Et ils manient aussi leur style, leur exercice. Et au final, il y a une hybridation et ils font une partition qui est 10 pages dans un livre et qui est une mise en espace dans une exposition. Et ces deux univers, en travaillant ensemble, s'enrichissent. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est important parce qu'à l'heure actuelle où on nous demande de faire des dossiers pour l'Agence nationale de la recherche, etc., c'est très difficile de monter des projets mêlant vraiment la pratique artistique et la réflexion théorique. Voilà. Je ferme la parenthèse. Donc, ce projet. Donc, c'est une rencontre entre une dizaine d'élèves de notre école et une dizaine de photographes. Donc, je vais prendre la dernière édition parce que, forcément, la première, on a essuyé les plâtres. Et puis, je vois Hélène Martinelli, qui est une élève d'ici, qui a essuyé les plâtres de la première. Et voilà, vous étiez avec Delphine Lhermitte, Hélène. C'est ça, hein. Donc, petit à petit, on a approfondi parce que c'est vraiment chaque année, on ne sait jamais où on va. On est sur le fil du rasoir, même si comment dire, on a un cadre, des séminaires croisés, des parcours entre Arles et notre école, mais c'est quand même les créateurs sont les élèves. Et donc, ils vont travailler ensemble pour produire ces 10 pages dans l'ouvrage, puis après encore une année supplémentaire pour créer la mise en espace. Donc, je vais m'appuyer sur la dernière édition qui s'appelait « À distance », qui vient de se bouteler au Centre photographique d'Île-de-France, à Poteau-Combo, qui vient de se clôturer le 15 janvier, et l'exposition. Et dans ce projet, je vais... si vous voulez, ce qui est intéressant à ce que disait Martine, c'est que ce sont des élèves qui, à travers un acte créatif, font une réflexion entre théorie et création. Ça donne de l'émotion, mais de la réflexion. Que ce projet est montré, mais qu'il devient aussi support pour d'autres enseignants, pour la communauté de l'éducation nationale, pour des visites scolaires, par exemple, qui ont été faites au Centre photographique d'Île-de-France. Et nos élèves participent avec l'enseignante de la mission de l'Action Académie Culturelle, c'était Créteil, qui travaillait pour la Seine-et-Marne, pour bâtir un dossier pédagogique en direction des enseignants du secondaire. Voilà. Donc, je trouvais que parce qu'on ne l'avait pas poussé jusqu'au bout, cette logique, dans les trois dernières éditions, donc Duel, 282 km, entre parenthèses, fois 2, c'est la distance à vol d'oiseau entre les deux villes, entre Arles et Lyon, et Trafic. Mais là, on a vraiment... Mais la chance aussi d'exposer aussi dans un lieu où il y a un service culturel, un service pédagogique et une activité avec une académie. Voilà. Parce que c'est vrai que les trois premières éditions, les trois premiers partenariats, le premier était montré au Fonds Régional d'Art Contemporain à Marseille, mais il y avait un travail, mais nous, on essuyait les plâtres, donc on n'était pas prêt à répondre aux demandes de l'Académie d'Aix-Marseille et puis du FRAC, PACA. Le second, la Bibliothèque Municipale de Lyon. N'a pas ce potentiel de service éducatif. Et puis la troisième édition, Trafic, qui était montrée à l'Institut Mémoire des éditions contemporaines, était plus axée sur la recherche à l'abbaye d'Ardennes. Voilà. Alors que là, c'est vrai que le lieu se prêtait à pousser jusqu'au bout cette réflexion. Donc, je vais vous montrer l'ouvrage, des parties... Et puis vous expliquer un peu le... Déjà non, je vais vous dire, voilà. Parce que ce qui est un peu intéressant pour vous aussi, c'est que vous avez aussi des ressources en ligne. Alors, voilà, c'est là. Tous les projets réalisés par les élèves de l'école sont mis dans une rubrique dans les pages culture de l'école. Vous voyez, atelier. Et là, vous avez à distance. Et donc, vous avez un accueil, vous avez des extraits de l'ouvrage. Donc, par exemple, je ne vais pas prendre Blanc parce que c'est... Je vais prendre Angoisse parce que ça fait appel au moteur de recherche et je vais vous en parler tout à l'heure. Entre Laura Carabello, qui est une étudiante étrangère dans l'école, qui est argentine, et Julia Milvard, qui est une photographe et qui est brésilienne, et qui ont travaillé sur la notion d'angoisse, mais en vérité à travers les moteurs de recherche. Et l'angoisse de la passe blanche, à travers ça, a généré des images... et des tests aussi. Et donc, c'est des ready-made textuels et des ready-made imagiers, leurs propositions. Donc, vous voyez, il y a on ne met pas la totalité en ligne, parce que sinon, à quoi bon faire un ouvrage, parce que tout ça a un coût aussi. Voilà. Et après, vous avez aussi un test explicatif du projet, donc là, qui a été rédigé par les deux enseignants d'Arles, sur le projet de Laura et de Julia, sur l'angoisse. Vous avez après, donc ça c'est la présentation des partitions. Vous avez sur l'exposition proprement dite un test de Jean-Marie Delaize et normalement une vidéo. Parce que en même temps c'est sa dernière participation parce que Jean-Marie Delaize, comme vous avez compris, est parti à la retraite. Et c'est Eric Dair qui prend entre guillemets sa succession mais qui renouvelle en tant que comparatiste l'activité créatrice et littéraire dans l'école. Au niveau de la recherche. On a fait une journée d'accompagnement à mi-distance. vous avez des captations des lectures. Et puis, surtout médiation, où dans médiation, vous avez... Alors, il y a quelque chose que je n'aime pas ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis en route la vidéo en même temps que... Voilà. Par contre, vous avez le dossier pédagogique, voilà, qui a été réalisé entre les élèves, les deux équipes et l'enseignante Sandra Muraille. Donc voilà sur l'historique et l'explicatif du projet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que je pense qu'après, pour être en accord avec la thématique du séminaire, je vais essayer de m'appuyer sur quatre projets d'élèves qui sont dans cette création numérique, on va dire. Voilà. Donc je vais m'appuyer sur le... Ben, je vais plutôt proposer le travail de Julia et Laura, qui elles sont parties de l'angoisse de la page blanche. Donc ça, c'est l'entrée par projet, vous voyez les mots-clés, le médium, et à la fin, il y a aussi dans le dossier des pistes pédagogiques pour travailler avec les élèves sur les différentes notions de poésie contemporaine et de création contemporaine. Mais on se rend compte qu'il n'y a rien de nouveau, comme a été dit hier matin. C'est que les techniques de sample, de cut-up, etc., on peut s'appuyer sur Apollinaire et bien d'autres modalités créatrices. Donc, elles sont parties de... je vais juste lire comment elles ont évoqué leur travail avec l'enseignante et pour nourrir ce dossier. Donc, nous avons défini notre travail comme une opération de récupération suivant certains critères d'images et de mots qui ne nous appartenaient pas. Nos réflexions ont évolué et pour la publication à distance, nous avons reformulé l'idée de fragmentation. Tout à l'heure et hier a été évoquée cette idée de fragment, notamment par l'intervention d'hier après-midi. Et du rapport entre les mots et les images. À travers cette démarche, nous avons choisi comme point de départ un test tiré d'un forum de discussion sur Internet où l'administrateur du site web cherchait la solution pour un bug connu comme l'angoisse de la page blanche. Et donc, la première page qu'il y a dans le projet, c'est cette fameuse page du bug de l'angoisse de la page blanche sous des algorithmes informatiques, puisqu'on a pris cette image. Et donc, ça, c'est le fameux bug de la page informatique de ce blog. Et donc cette image, ce test, plutôt qu'une image, a généré tout leur acte créatif. Et donc le mot angoisse a été extrait de ce test et transformé en image par un moteur de recherche en ligne. Les images ont été triées, ont été recadrées, donnant origine à d'autres mots qui généraient encore d'autres images, une sorte de ricochet. Voilà. C'était intéressant parce que c'est quand même deux élèves qui n'ont pas une culture européenne, qui sont d'Amérique latine, et qui décident comme ça de s'approprier la culture occidentale et le ready-made. C'était assez intéressant pour nous de voir que ces deux jeunes filles, deux jeunes femmes, prennent hâte que leur acte créatif sera une appropriation. Une appropriation et une recherche avec ce médium qu'est Internet. Et en plus, elles travaillent sur l'angoisse avec, certes, elles font partie du même continent, mais une parle brésilien et l'autre espagnol. Elles ont quand même une vision, quand même des choses un peu différentes. Et elles vont se réunir sur cette notion d'angoisse. Et si vous voulez, le projet de Laura et de Julia vont être qu'il y a ce bug informatique fait d'algorithmes. Mais dans la partition livresque, il y a une accélération. Et donc, ils vont utiliser la définition de la poire d'angoisse, qui est un instrument de torture au Moyen-Âge, mais vraiment... Voilà, elle va faire un copier-coller, hein, et ils vont générer les images qui vont partir de cet instrument de torture. Donc vous voyez, il y a des registres différents. Donc un registre algorithmique, un registre de dictionnaire, un registre juridique après. Elles vont prendre les actes de torture et de barbarie, la définition internationale de ce qui caractérise la souffrance, pour passer enfin à des blogs, voilà, sur plutôt des définitions de l'angoisse de type émotionnel, témoignage, avec les fautes d'orthographe. Voilà, et ces quatre tests récupérés sur Internet vont générer des images où elles, c'est aussi leur propos sur l'angoisse en tant que deux jeunes femmes d'Amérique du Sud. Mais après, je pourrais vous faire circuler les ouvrages, voilà. Alors, c'est vrai que la difficulté, c'est qu'elles ont été aussi très loin dans le projet. Et l'angoisse caractérisée par ces deux jeunes femmes va jusqu'à une image pornographique. Alors, ça a été aussi très compliqué pour nous, parce que ça a été même un sujet en conseil de direction dans l'école. Vous voyez, c'est traité au plus haut niveau. Et faire comprendre que l'angoisse, ce n'est pas... c'est leur représentation de l'angoisse, donc c'est deux sexes masculins près d'une bouche féminine. Et pour elle, c'est ça, l'angoisse extrême. Voilà. Voilà. Et donc, la difficulté, ça a été de faire comprendre que ce n'est pas un acte de promotion de la pornographie, c'est plutôt de dénonciation de la pornographie. Hein. Voilà. Mais c'est là où on voit que la difficulté de réfléchir sur un acte artistique nécessite d'avoir tous les paramètres. Et donc, heureusement, notre directeur des études, Eric Bordas, travaille sur SAD et dit, si on censure cette image, vous censurez tout mon travail. Donc, ouf. Mais je vous avoue que les quatre autres membres du conseil de direction ne souhaitaient pas qu'il y ait cette image. Voilà. Aller dans l'ouvrage, hein, et dans l'exposition aussi. Et c'est là aussi où on voit qu'il y a un gros travail après à faire. Alors, bon, pour certains enfants, c'est vrai que c'était pas possible de voir l'image. Donc, dans la mise en espace, ça a été de manière astucieuse et pour pas qu'elle apparaisse comme ça gratuitement. Donc, voilà sur le projet de Julia et Laura. Un autre projet. Alors, c'est vrai que cette édition est aussi intéressante parce que c'est peut-être pour ça aussi qu'elle est très enrichissante. C'est que l'horizon des possibles, l'ouverture, est rendue aussi plus grande parce que il y a beaucoup d'étudiants étrangers. Et c'est vrai que là, je voyais, oui, le second cas dont je vais traiter, c'est le cas d'Oscar Dumas et Charlotte Moss-Forstier. Et Charlotte était pensionnaire scientifique étrangère aussi à l'école et américaine. Et leur travail, Private Eye, excusez-moi mon accent, est un travail. Donc Oscar fait des photographies, il va faire des focus, des blow-ups sur ces images, les agrandir, faire des trames très très importantes. Et Charlotte travaille sur la culture populaire, la littérature populaire américaine. Et elle va, comme elle dit, réinterpréter des phrases de Gatsby le Magnifique, voilà. Et qui vont devenir des slogans publicitaires. Et ils décident ensemble que cette phrase s'incruste dans l'image. Et par exemple, ça c'était le choix de la directrice du Centre photographique d'Île-de-France parce que l'exposition était en novembre. Et c'est vrai que c'est pour le visuel parce qu'il joue sur l'ambiguïté de la communication et en même temps de la culture populaire. Voilà. Et ce qui était intéressant, Charlotte ne veut surtout pas qu'on traduise son américain. Et donc on est obligé de se contenter de traductions littérales. Donc nous ne sommes pas des éponges à tempête. Et donc c'est vrai qu'en novembre 2011, pleine crise. C'est vrai, et même à l'heure actuelle, je trouve qu'elle a beaucoup de signification, cette image. Parce qu'on n'est pas des éponges à tempête, vous voyez. Ouais. Avec cette écume, ce bébé, cette famille, voilà. Alors, pour le dossier pédagogique, ils ont pris une autre image, mais pareil, ils ont pris une image de ce tandem, d'Oscar et Charlotte. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment sur l'incrustation d'une phrase, parce qu'elle n'est pas au milieu, elle est aux deux tiers. Ben, après, il faudrait rentrer dans des détails de manière approfondie, mais comment se compose l'image. Mais vous voyez, là, c'est par rapport, grâce au médium numérique, parce que, par exemple, à l'école d'Arles, là, dans le projet, il n'y en a qu'un qui fait de la photographie argentique, Édouard Beau. Tous les autres font de la photographie numérique. Il n'y a plus de laboratoire argentique à l'École nationale supérieure de la photographie d'Arles. Ça m'a bluffé. Alors que moi, la première chose que j'ai faite ici, quand je suis arrivé, on devait passer au tout numérique en 2000. J'ai demandé qu'on refasse un laboratoire argentique pour que les élèves qui s'intéressent à la photographie comprennent aussi ce que c'est l'argentique. Et ça, c'est... Voilà. Et de même que, vous savez qu'en Europe, par exemple, il ne reste plus que Londres au Royal College of Art pour le tirage argentique couleur. C'est aussi quelque chose qui disparaît. Et beaucoup de photographes qui utilisent cette manière de faire, ce support technique, doivent soit aller à Londres, soit à New York pour les tirages argentiques couleur. Donc là aussi, se posent des questions sur le médium, sur l'avancée du support. Un autre cas aussi, c'est Valerian Bayo Raona et Marion Chéreau. Donc Valerian est élève en lettres modernes ici, et Marion est la photographe. Et ils vont décider de travailler sur la relation du chasseur-chassé. Elle fait des photographies dans les jardins, et avec des présences humaines ou non, voilà, tout un jeu de suspense, de manière très hitchcockienne. Et Valerian a une écriture très naïve, très à l'eau de rose, voilà. Et ils vont décider donc dans les pages, dans ces promenons-nous, vous voyez, il y a donc déjà, c'est sur fond noir, et donc les images, voilà, de vue de jardin. Et il va travailler sur... alors là, c'est plus... Il faudrait voir dans l'exposition, parce qu'à chaque fois, vous voyez qu'il y a deux territoires qu'ils investissent, le livre et l'exposition. Mais là, par exemple, donc il y a une partie en blanc plus clair et l'autre plus gris. Donc voilà, qui est le chasseur, qui est le traqué. Donc les passants sentent le vent tourner et regagnent précocement leur domicile, balade écourtée, pressentiment. Mais elle reste seule, elle attend que l'une de ses jolies princesses passe sous son nez. Voilà. Le ciel tourne autour de moi, je ne peux pas m'empêcher d'avoir les yeux humides. Une bombe flotte et rebondit sous la caverne de mes côtes. Elle remonte lentement le cours du fleuve, je suis encore sous le choc de la chute. Voilà. Alors vous voyez ça, au niveau d'une page, il y a ces différences de couleurs. Comment, parce que après la deuxième partie de leur travail, c'est comment spatialiser cette partition. Donc il est beaucoup plus facile de mettre au mur une photographie qu'un écrit. Donc il faut qu'ils réfléchissent à des dispositions spatiales. Et donc là, ils ont opté pour être dans une petite pièce noire. Elle a fait un film de ces images qui défilent comme un diaporama. Et il a enregistré sa voix et il l'a déformée pour qu'une des voix ressemble à une voix de grand-mère, on va dire, et l'autre, c'est sa voix. Voilà. Et il restitue son récit sous cette forme par du son, dans l'exposition. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez ce projet, donc vous, dans l'entrée par projet, dans le dossier pédagogique, il y a donc les mots-clés point de vue, visibilité, vision, clair-obscur, parce que c'est vrai que Marion travaille beaucoup sur le clair-obscur, suspense, étrangeté, les médiums utilisés, diaporama, bande sonore, voix off, installation et intermédia. Bah, comme je parle de l'exposition, je vais vous montrer le reportage qui avait été fait sur à distance, comme ça peut-être on a des extraits de... Et puis je parlerai du quatrième projet après. Ah, on n'a pas le son. Il n'y a pas de connexion son. Désolé. Non, mais c'est pas grave. Bah, vous voyez juste la proposition spatiale. Donc là, c'est le projet de Jessica Hervault et de Rémi Warret. Mais ça, je ne vous en parle pas parce que vous voyez, c'est, c'est très rudimentaire. Là, c'est la proposition d'Air Palast entre la chimiste Eva Deron et Renaud Duval. Bon, ça, c'est une des enseignantes d'Arles, Muriel Tout-le-Monde, qui est aussi vidéaste. Je peux pas faire... J'arrive pas à lire sur les lèvres, donc je peux pas... Donc là, c'est toujours le projet d'Air Palast. Ça, c'est le projet de Laura et de Julia. Vous voyez, ils ont essayé de reconstituer un mur d'image. Ah, ça a été trop vite. Peut-être, bah oui, je peux faire pause, au fait. Voilà. Là, il y a le projet d'Edouard Beau, donc le seul élève qui travaille sur l'argentique, avec une élève de l'ENS de Tunis, Sarah Rayeb. Parce que Edouard Beau travaille sur le Kurdistan, les territoires perses. Voilà. Et des territoires en conflit. Et Sarah a voulu, ils ont voulu renouer la grande histoire et la petite histoire, et elle a fait une lettre d'amour, voilà, qui est écrite en arabe, elle, et en français. Donc un dispositif très traditionnel, vous voyez des tirages barités argentiques, il y en a 7. Et puis là, sur le socle, vous avez la lettre en photocopie que les visiteurs peuvent prendre de Sarah. Et dans le livre, l'articulation se fait de manière moins classique. Ça, c'est le projet, le quatrième projet de Benjamin et de... je vais m'arrêter là. De Benjamin Roulet d'Escante, le photographe, et de... excusez-moi, j'ai un trou de mémoire, de Damien Blanchard. Damien Blanchard est en lettres modernes et il a la particularité d'être malentendant, voire même là avec les appareils, il entend mieux, on va dire, mais pendant longtemps et même toute son enfance et son adolescence, il a eu cet handicap de ne pas pouvoir entendre. Voilà. Ce qui ne l'a pas empêché d'arriver major au concours d'entrée à Normale Sup. Et ce garçon qui a cet handicap donc, va travailler avec ce photographe et sa volonté c'est de placer la personne qui a tous ses sens dans un handicap. Et donc dans le livre, ils vont photographier, parce que vous voyez, l'écrivain influe sur la photographie. Donc ils discutent ensemble du projet. Et donc... Le photographe va prendre en photographie des discussions et ils vont décider d'occulter la partie de la communication par la pose d'un rond blanc sur l'image dans le livre. Et dans la vidéo, dans la proposition d'exposition, ils vont partir sur l'idée que son écrit c'est un générique, qu'il n'y a pas de son. Et de renouer avec des anciennes techniques qui ne sont pas très anciennes, mais qui n'existent plus, quasiment plus, c'est la cassette VHS. Et ils vont passer un été à voir plein de bandes de cassettes VHS. Et c'est vrai qu'à l'époque, souvent, quand on avait les cassettes VHS, on mettait la cassette VHS qui n'était pas rebobinée, et on enregistrait dessus, et voilà. Et donc, ils vont compiler des images, et lui, il va mettre son générique au milieu de faux génériques, de vrais génériques, et pour mettre en difficulté la personne. Et en plus, ça c'est le projet du photographe qui travaille beaucoup sur les techniques. Pour lui, les techniques sont importantes parce qu'elles déterminent aussi des moyens de création. Et donc, il voulait un tritube, chose qui n'existe plus. Donc ça a été très difficile à trouver un tritube, mais c'est des énormes appareils. Vous voyez le système c'est pas un barco, là. Mais c'est des énormes avec RVB, les trois couleurs, et qui donnent des images vraiment d'une très mauvaise qualité. Et en plus, les réglages se font au tournevis. Donc voilà, c'était de montrer vraiment aussi, parce que hier on a évoqué que avec l'évolution des techniques, se pose le problème de la conservation. Parce que le projet, le processus, lui, il reste, il avance. Mais les techniques, elles, les matériaux, eux, ont du mal à survivre. Et par exemple, là, pour trouver un tritube, on a mis 6 mois pour en trouver un. C'était un ingénieur passionné de l'audiovisuel et qui avait chez lui toute une collection de supports de projection. Il l'avait acheté 90 000 francs à l'époque. Il s'en est séparé pour 150 euros. Mais voilà. Donc on voit aussi, et ça c'est introuvable, ce matériel de projection chez des fournisseurs, même des studios de cinéma. Voilà. Donc c'est là où on voit aussi que il se pose aussi la question de la conservation des matériaux, des instruments. Donc je continue sur l'exposition. Voilà. Donc vous voyez, c'est de vieux films des années 80 qui... Bon, c'est un petit reportage qui a été fait sur l'exposition qu'on a mis en ligne pour avoir une trace, parce que le livre existe, voilà. Ah bah ça, c'est le projet de... Mais c'est bête, on n'a pas le son, donc on n'entend pas le...
Je cherche un technicien pour moi.
Bon, ça dure 3 minutes, on est à 1 minute maintenant. Non, mais pour les autres projets, c'est...
Oui, oui.
Ça, c'est la fameuse lettre de Sarah. Donc elle a joué aussi sur le papier, parce que vous voyez quand le... Pardon, je vais revenir en arrière. Elle a joué sur le papier parce qu'elle a utilisé un vieux papier et très très faible en grammage. Et donc vous voyez, on voit l'écriture, donc bien sûr l'arabe se lit de droite à gauche et le français, voilà. Et donc quand le français, on arrive à voir le français sous le papier... Et voilà, et quand ça se termine, et quand débute l'arabe de l'autre côté. Donc c'était aussi un jeu très fin sur une pratique. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a soit des recours, comme on a vu à travers ces 4 projets, de techniques très évolutives sur l'écriture numérique, la photographie numérique, mais le fait qu'il y a un retour de balancier vers... des techniques plus rudimentaires et comme le 16 mm en cinéma, de plus en plus d'expositions sont en 16 mm. Et c'est très intéressant parce que même là, en discutant avec le service des publics du CPIF, ça questionne parce qu'ils sont vraiment intéressés, les jeunes d'aujourd'hui, par rapport au tritube, par rapport à du blanco sur une feuille ou du 16 mm, parce qu'ils n'ont jamais connu ça. Et c'est vraiment, ça leur pose aussi, excusez-moi, parce qu'on est dans un séminaire sur la littérature électronique et parle de ça, mais en même temps, c'est aussi ça, c'est ça qui est formidable. Grâce à tout cet univers électronique, ça fait redécouvrir des choses que d'autres ont connues, mais qui n'ont pas du tout utilisé, qui n'avaient pas ce potentiel magique, et qui reviennent parce que, voilà, c'est... Et c'est pour ça que pour moi, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de rivalité entre la littérature électronique, la littérature papier, la photographie argentique, parce que la photographie numérique, certes se développe de plus en plus, mais les Olga, les vieux appareils photo des pays de l'Est sont redécouverts. Bref, il y a ce mouvement de balancier. Et il y a 2 ans dans le séminaire, il y avait Monsieur Gervaux, le dictionnaire des images. Là, c'est Lionel Gervaux.
Gervaux,
voilà. Qui était intervenu et qui avait dit cette phrase superbe, c'est que quand un médium disparaît, il réapparaît sous une autre forme. Et pour lui, par exemple, le vitrail, qui a soi-disant disparu, réapparaît sur tous ces écrans rétro-éclairés.
Oui.
Le téléphone portable, les tablettes, etc., pour lui, ce sont des vitraux. Et c'est très intéressant, je trouve, ce discours, parce que je suis sûr que la photographie argentique réapparaîtra, mais sous une autre forme, qui ne s'appellera pas photographie argentique, parce que personne n'ose dire qu'un téléphone portable est un vitrail. Mais pourtant, c'est le principe, c'est une lumière qui vient de l'intérieur, de derrière. Certes, une lumière artificielle. Voilà. Avec tous ces discours... Donc, sur le projet de Damien Blanchard et Benjamin Roulet-Descamps, Tu n'es pas tu. Alors, j'oubliais aussi que Jean-Marie Glaise a fait tout son séminaire avec Emmanuel Occard. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de citations d'Emmanuel Occard. Donc « Tu n'es pas tu », c'est une citation d'Emmanuel Occard qu'ils reprennent. Ils ont repris aussi dans l'ouvrage une citation d'Emmanuel Occard. Et c'est pour ça, non mais, et aussi toute une phrase d'Emmanuel Occard sur le livre des tables a conditionné tout un projet qui s'appelle le document et qui est une sorte de, comment dire, déjà c'est un trinôme, un vidéaste, un photographe et un élève lettres modernes, Paul Rouelland, où c'est ça aussi qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'à chaque fois c'est eux qui sont force de proposition. Et donc, ils ont utilisé un blog. Donc, ils sont partis de la fameuse phrase de... moi, je la connais pas par cœur, c'est pour ça que je la recherche, d'Emmanuel Occard sur une photo... Elle est où ? Voilà, une table est un dessus. Une table est un dessus. Une phrase n'a pas d'envers, une photographie sans dos. Très belle phrase qui est extraite de la théorie des tables d'Emmanuel Occard. Et donc, ils vont partir de cette phrase pour créer ensemble et se les envoyer à travers par la poste. Même si c'est codifié dans un blog, répertorié, etc. Et ce qui leur permet aussi qu'à un moment, la poste va défaillir. Et à chaque fois, ils rassemblent tout dans leur enveloppe. Ils se l'envoient. Et cette grosse enveloppe disparaît. Elle est perdue. Et c'était après la publication. Donc, pour l'exposition, on se pose la question, que montrer ? Parce qu'ils pensaient montrer ses allers-retours. Donc, il restait le blog... Et donc, ça les a fait réfléchir, repartir sur le projet et sur la notion de mémoire, et ça les a fait rééclater, alors que c'était un collectif, et chacun est redevenu individuel et a fait une proposition dans l'exposition pour remontrer le document, entre guillemets, à travers cette phrase. Voilà. Un exemple, il y a... Ah oui, il faut sortir de... Bon, je le laisse terminer, comme ça je vais pouvoir revenir en arrière. Donc ça, c'est le document. Donc c'est vrai, c'est assez conceptuel. Ça, c'est le travail de Paul. Ça, c'est leur travail, vous avez. Donc c'était sous forme de lettrage, voilà. Bon, voilà, c'est le générique. Comment on fait pour... Voilà. Donc, juste pour vous montrer, dans l'ouvrage, tu n'es pas tu, voilà. Donc, vous voyez, voilà, le projet. Et donc, c'est le générique qu'a écrit Damien qui devient sa proposition textuelle. Par ordre d'apparition, tu n'apparais pas, sinon couvert de lumière, on te pressent, tu es fondu au noir. Si on t'entendait, la scène revivrait, tu t'efforces. Mais par contre, voilà. On ne sait pas du tout ce qui communique entre eux. Alors juste, si je peux me permettre, à condition... Ouais, peut-être j'ai trop parlé, Je vais juste vous montrer, bon, je ne vais pas... Parce que Jean-Marie Glaise a fait une lecture performance sur les mots-images et extrait de son dernier livre, Tarnac. Mais c'est juste Damien Blanchard, donc, est aussi poète-performeur. Parce que c'est ça aussi, ces écrivains, à un moment, vont aussi percer. Donc Damien a fait déjà deux publications. Et donc là, il nous a fait une lecture aussi assez intéressante. Donc je me permets juste de vous la montrer, ou des extraits, parce qu'elle dure quand même une dizaine de minutes. Voilà. Ah oui, mais il n'y a pas le son. Oui. C'est vraiment dommage, parce qu'il joue que là-dessus. Ouais. Bah, peut-être en fin de journée, oui. Non.
Je vais demander.
Oui. Vous allez sur les... sinon, vous tapez, regardez, à distance.ens-lyon. Non, mais je vous explique juste la performance de Damien qui va dans ce sens. C'est que, en vérité, il a enregistré sa voix. Donc, il utilise la diffusion via son ordinateur de sa création poétique. Et il a suit avec le langage des signes, voilà. Mais il continue avec le langage des signes à nous perdre aussi, parce que certains signes sont vraiment faits pour les sourds et muets, et d'autres signes sont fictionnels, voilà. Donc il brouille encore toutes les pistes, voilà. Mais c'est vrai que 13 minutes de où il ne parle pas, voilà. C'est voilà, voir quelques images, et ça permet de comprendre qui est ce jeune homme et comment il pense aussi à travers la corporalité, entre autres. Et donc là, je pense que dans médiation, donc il y avait tous les appareillages. Vous avez aussi, donc, dans le dossier pédagogique, différents types d'entrées. Donc, vous voyez encore une autre image qui a servi pour le projet de Charlotte et Oscar. Alors juste, donc, ouais, je vais reprendre juste le sommaire. Donc vous voyez, ils ont fait, mais bon. Pour ça tombe bien, finalement, ce déplacement d'horaire, parce que c'est un peu la continuité du propos d'hier de Cécile Perret avec son travail dans un lycée professionnel, parce que nous, certes, on fait avec des normaliens, mais c'est un peu dans cette logique de faire travailler des élèves et des photographes, et en même temps de proposer après des instruments en direction du secondaire, donc ce que disait Martine, voilà. Et donc là, c'est vrai que c'était la première édition où il y avait tout cet accompagnement, donc vous voyez, pratique collaborative, tests et images, mise en espace, les entrées par projet et les pistes pédagogiques pour les classes. Et donc j'ai essayé de suivre un peu, parce que ça durait 2 mois et demi l'exposition, donc j'ai été voir deux visites pour voir ce que ça donnait. Et finalement, c'est plutôt bien, parce que ça permet aux enseignants de prendre un cas concret et de redéployer dans l'histoire de l'art sous une forme plus contemporaine, et en même temps avec la modestie que c'est un projet d'élève, qu'on n'est pas face à des chefs-d'œuvre, mais face à de l'expérimentation. Et de l'expérimentation à l'instant T, d'une certaine façon. Voilà. Je vais m'arrêter là sur le projet. Par contre, bien sûr, je reste à disposition pour répondre plutôt dans un échange.